Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal des midi sur Radio Kapi. Au sommaire, la première ministre Judith Suminwa a lancé officiellement ce lundi matin la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024 ici à Kinshasa. Plus de 900 000 candidats inscrits sur l'ensemble du territoire national vont devoir affronter ces épreuves pendant 4 jours. À suivre également dans ce journal, 9 officiers supérieurs des FARDC interpellés pour détournement et vente des tenues militaires au groupe armé Zaïre en Ituri. L'auditorat supérieur près la cour militaire a ouvert une information judiciaire à l'égard de ces prévenus. Les porte-paroles de l'armée en Ituri indiquent que cette action de la justice vise à redynamiser la discipline au sein des forces armées. L'invité de ce midi est Liliane Bitong, ambassadrice représentante pays en RDC de Caritas International Belgique. Elle revient sur le lancement du projet Lisanga, projet qui vise l'assistance globale de près de 30 000 déplacés de la crise de Kwamout installés dans les zones de santé de Kwamout et Maluku 2, ici à Kinshasa. Bonjour à toutes et à tous. Début ce lundi matin de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024 pour environ 962 000 finalistes du secondaire. C'est la première ministre qui a lancé officiellement ces épreuves au lycée Monseigneur Chaoumba à Kinshasa. L'inspecteur général de l'éducation et nouvelle citoyenneté Patrice Odja Musungai a lui procédé à l'ouverture des malles d'items. Judith Suminwa a salué les efforts du gouvernement et de tous les personnels de l'éducation pour l'organisation de cette session. Elle a également encouragé les élèves à travailler et réussir. On écoute la première ministre au micro d'Étienne Lissumbu.
Le plus important, c'est de souligner tout l'effort qui a été mis en place au niveau du gouvernement pour que ces examens puissent avoir lieu à Kinshasa où nous sommes, mais aussi à l'intérieur du pays et particulièrement dans les zones où il y a des conflits comme au Nord Kivu où tout a été organisé pour que les enfants puissent passer leurs examens en toute sérénité. Et il faut féliciter tout le personnel de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui participe à ce processus de session parce que ce n'est pas évident, particulièrement pour ceux qui sont en province et dans des endroits reculés, de pouvoir tenir à organiser cela calmement, en toute sérénité. Et donc moi, je souhaite bonne chance à tous nos enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons qui vont pouvoir tous, j'espère, réussir à cette session d'examen d'État 2024.
À Beni, au Nord Kivu, comme sur l'ensemble de la République, c'est parti aussi ce matin avec la passation des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État 2024. Plus de 5000 candidats passent ces épreuves dans 15 centres à travers la ville. Cependant, les responsables de la sous-division de l'EPST Beni indiquent n'avoir reçu aucun cas de finalistes déplacés dans son entité éducationnelle, contrairement aux années antérieures. Grévis Saloumou pour les détails.
C'est au complexe scolaire La Roche-Belle, situé au quartier Mabolio de la commune de Bungulu, que les épreuves de l'Exeta 2024 ont été officiellement lancées par l'autorité urbaine. Pour cette année, la sous-division de l'EPST Beni n'a pas enregistré des cas d'élèves finalistes et déplacés qui se sont présentés à la dernière minute, affirme le responsable de cette entité éducationnelle, Olivier Matsorolenge.
Les déplacés devaient être reçus facilement parce que c'est une politique qui nous a été dictée par la hiérarchie, mais jusque-là, nous n'avons enregistré aucun candidat ici à la sous-division. Quand nous avons enregistré le candidat, nous devons lui demander d'abord s'il est en possession de son numéro en tête et aussi de quelle sous-division et de quelle école il provient.
Quelques finalistes abordés ce midi ont trouvé abordables les épreuves de cette première journée consacrée à la culture générale. Wilfried Kayaya, rencontré au centre situé à l'Institut Bungulu.
Ça s'est quand même très bien passé. Il y a la question, quelle est la règle déontologique qui pousse au comptable de garder les secrets de l'entreprise? J'ai répondu que c'était pour la confidentialité. C'est promettant vraiment.
Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu indique que jusque-là, aucun incident n'est signalé dans la zone. Les élèves finalistes déplacés passent les examens sans aucune inquiétude dans les centres proches, affirme Salomo Chaloumou. Beni, Grévis Saloumou, Radio Kapi.
Dans la province de la Chopo, 19 946 élèves finalistes ont été enregistrés pour participer aux examens d'État édition 2024 dans la province éducationnelle Chopo 1. Parmi eux, 8 708 filles et 11 238 garçons. Ces chiffres ont été révélés ce lundi par l'inspecteur principal provincial de l'EPST à l'occasion de la cérémonie officielle du lancement des exétats par les gouverneurs des provinces ad intérim. C'était ce lundi à l'Institut Lisanga dans la commune de la Chopo. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Les 19 946 élèves finalistes sont répartis dans 61 centres d'examen, dont 51 dans la ville de Kisangani et 10 autres à l'intérieur de la province éducationnelle Chopo 1. À cette occasion, le gouverneur par intérim a salué les efforts consentis par le président de la République pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Didier Lomoyo-Iteko a aussi félicité les acteurs de l'éducation pour avoir parachevé les programmes des enseignements.
C'est ici l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager tous les acteurs de l'éducation pour avoir cheminé le programme de cette année scolaire en dépit des événements malheureux qui se sont produits dans la commune de Lubunga et qui ont failli hypothéquer l'avenir des enfants qui étudient dans les écoles de cette commune.
Pour sa part, le directeur provincial de l'éducation Chopo 1 a exhorté les finalistes à aborder ces examens dans la sérénité.
Je vous encourage à ne pas avoir peur. Le carnet qui se présentera devant vous, considérez-le comme le papier duplicateur que vous avez toujours utilisé pour passer l'examen. L'examen, considérez-le comme l'interrogation que vous avez présentée à l'école.
Le souhait des autorités est de voir les finalistes réussir massivement et surtout, pour certains, de décrocher la bourse Excellencia que décerne la Fondation Denise Nyakeru aux élèves qui obtiennent les meilleurs scores à ces épreuves. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
L'examen d'État édition 2024 était également effectif dans la province éducationnelle Maniema 1 ce lundi. Ils sont plus de 13 000 candidats à se présenter à ces épreuves de 4 jours, dont plus de 5 000 filles réparties dans 46 centres. Le lancement a eu lieu à l'enceinte de l'école primaire Tuendele par l'autorité provinciale. Elle encourage les finalistes au travail bien fait en évitant toutes sortes d'antivaleurs. Florence Kizalunga, reportage.
Premier à prendre la parole, le Proved demande à tous les finalistes d'accorder beaucoup de sourires durant ces 4 jours pour permettre à améliorer la performance de cette province éducationnelle. Mokito Gaounda Serafin.
J'encourage les enfants. Je dis à tous les enfants d'être disciplinés devant leur cahier d'items parce que moi j'ai besoin d'un bon résultat pour cette année. Chaque fois au niveau de la République, ma province est parmi les provinces qui ne sont pas à la page. Je demande pour cette année à tous mes élèves de m'amener un bon diplôme. Pourquoi pas les lauréats sortiront de ma province.
L'inspecteur principal provincial exhorte à tous les intervenants au respect des consignes. Cependant, les élèves demandent que les surveillants ne puissent pas les intimider.
Je viens présenter l'examen, je me suis très bien concentré et j'espère que tout ira bien. Du côté des surveillants, de bien faire leur travail. Qu'ils ne nous intimident pas, qu'ils nous laissent tranquilles, que l'on fasse nos examens.
J'ai bien bossé et je pense que je vais travailler bien pour avoir mon diplôme.
Je suis bien préparé. J'ai pris seulement à Dieu de m'accorder la chance d'avoir mon diplôme d'État cette année.
Et l'élu de Kindu, Ngongo Kitenge, a également encouragé tous les élèves. Tous souhaitent voir de bons résultats à la fin. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
En Ituri, l'auditorat supérieur près la cour militaire a ouvert une information judiciaire à l'égard des officiers supérieurs des FARDC en opération contre les groupes armés dans cette province. Selon de sources judiciaires, ces militaires sont accusés de détournement et vente de nouvelles tenues des FARDC aux éléments du groupe armé Zaïre. Le porte-parole de l'armée en Ituri indique que cette action de la justice vise à redynamiser la discipline au sein des forces armées. Martial Kizabiamungu.
Au total, 9 officiers militaires, dont le plus gradé est un colonel, sont interpellés par la justice militaire. Parmi eux, les directeurs administratifs de la 32e région militaire, les chargés de logistique au secteur opérationnel des FARDC et son adjoint du régiment 1301 basé en Djougoua, Ituri. Dans une note d'information adressée au gouverneur des provinces, la semaine dernière, l'auditeur supérieur près la cour militaire de l'Ituri dit poursuivre ses officiers de l'armée des tentatives de détournement des effets militaires et faux en écriture. torture. Des sources judiciaires affirment que certains accusés sont déjà en garde à vue à Bounia. Les porte-parole militaires à Litouré indiquent que les autorités militaires de l'état de siège encouragent cette action de la justice militaire pour couper la chaîne des ravitaillements des groupes armés. Le lieutenant Gilles Ngongo.
Cette interpellation s'inscrit dans le cadre de lutte contre les pratiques des antivaleurs au sein de forces armées en vue de couper la chaîne de ravitaillement de nos ennemis.
Entre-temps, les enquêtes se poursuivent à la justice militaire pour dénicher d'autres personnes qui seraient impliquées de près ou de loin dans ce dossier. Bounia, Martial Kizepiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, l'accès aux soins médicaux pour les personnes déplacées de guerre dans les zones de refuge reste un véritable casse-tête, en particulier pour les femmes enceintes. Ce sont notamment les femmes déplacées qui vivent dans les sites en territoire de Nyiragongo, par exemple. Leurs sites sont éloignés du centre de santé de Kanyaruchinya où est organisée la prise en charge gratuite des déplacés. C'est ce que constate l'ONG locale Action pour la protection civile et le développement APROCID basée à Kibati. Cette structure demande aux autorités de trouver une solution rapide à ces problèmes qui affectent des milliers de femmes enceintes et populations déplacées. Sifa Maguru.
Ces femmes enceintes sont obligées parfois de parcourir de longues distances à pied et parfois contraintes d'aller passer la nuit aux alentours de l'hôpital pour rentrer le lendemain juste pour une consultation prénatale. Des contraintes qui ne facilitent pas la tâche à de nombreuses femmes déplacées qui font déjà face à plusieurs difficultés et conditions de vie difficiles. Du coup, elles ne suivent pas régulièrement les soins prénataux, ce qui les expose à plusieurs risques, notamment des fausses couches, des décès maternels et autres. Explication de Innocent Tuisabe, directeur exécutif de cette organisation.
Certaines femmes enceintes sont mortes par manque de soins médicaux. Le problème est qu'il n'y a pas de centre de santé suffisant pour prendre en charge tous les déplacés. C'est par exemple le centre de santé qui se trouve à Kanyaruchinya qui doit accueillir nombreux déplacés. Certains sont à Rusayo, d'autres à Mouja et ailleurs pour le seul centre. Cela constitue un grand défi. Filles qui méritent de trouver solution d'urgence, car elle occasionne plusieurs décès.
Ces cas de décès dus au manque de soins médicaux ne concernent pas seulement les femmes enceintes, mais plusieurs déplacés, notamment les enfants et les personnes de troisième âge, qui meurent dans les abris faute de soins, ajoute-t-il. Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
Et puis, ces rapports, une étude récemment menée par l'ONG Bénévolentia Grand Lac révèle des perceptions locales nuancées concernant les retraits de la MONUSCO du Sud Kivu. L'étude visait à comprendre les points de vue des auditeurs des radios et leaders communautaires de la région sur les bilans de la mission onusienne et les perspectives de son retrait de la zone. Je vous propose d'écouter Josaphat Moussamba, coordonnateur suivi et évaluation à l'ONG Bénévolentia, qui résume les résultats de cette étude. Suivez.
Quelques résultats ont permis de cerner cette étude. Dans un premier lieu, c'est par rapport à la perception, c'est-à-dire que les retraits ont été effectifs dans certaines zones, il n'est pas dans les autres, comme à Ouvira. Par contre, là où les retraits ont été effectifs, on s'est rendu compte que la perception de la MONUSCO varie entre des tendances négativistes et des tendances nuancées par rapport aux autres positives. Et surtout, ces tendances, c'est en fonction des rapports que la mission, les casques bleus, ont eu avec les habitants, c'est par rapport aux interactions entre les casques bleus et les agents de l'État, par rapport aussi au type des rapports professionnels qu'ils ont eus ensemble. C'est pourquoi, à un certain moment, certains reconnaissent et ils ont la nostalgie des services de la MONUSCO. D'autres, carrément, pensent qu'ils n'ont rien fait. Par contre, les résultats ont permis de constater que la MONUSCO est partie, il y aura un vide sécuritaire. Mais ces vides pourraient être comblés si et seulement si l'État congolais, les FRDC, l'État FOC, le Burundi, la PNC remplissent leurs obligations et qu'ils aient la capacité de manœuvrer suffisamment pour, si vous voulez, couvrir ces vides.
Célébration ce dimanche 23 juin 2024 de la Journée internationale des veuves. À cette occasion, la ministre provinciale du genre a appelé au respect des droits des veuves et fustigé les mauvais traitements dont elles sont souvent victimes. Dans ce reportage, Jean Gandou revient sur la situation que vivent certaines d'entre elles à Lubumbashi.
Sarah, la quarantaine révolue, a perdu son mari dans un accident de voiture. Avec ses 4 enfants, elle s'est vue chassée de la maison par sa belle-famille. Son péché, c'est d'avoir refusé d'être prise en mariage par le frère de son défunt mari. Et depuis, elle a trouvé du travail chez une dame de son église où elle s'occupe de la garde des enfants. Elle ne rentre chez elle que tard dans la soirée pour enfin prendre soin de ses 3 garçons. Le 4e, ne pouvant pas supporter la souffrance, a fini par gagner la rue. Chantal, elle aussi veuve de son état, grâce à la ristourne, s'est lancée dans l'exercice du petit commerce informel, ce qui lui permet de nourrir ses 2 enfants. Elle dit être abandonnée par sa belle famille après le décès de son mari. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des veuves, Gisèle Ngungwa, la ministre provinciale du genre dans le Haut-Katanga, a au cours de son adresse à la population indiqué que
cette commémoration constitue une grande opportunité qui s'offre au monde entier afin de défendre le droit de veuve contre les traitements inhumains qu'elles subissent tant par les hommes que pire par les autres femmes.
Et pour y faire face,
je lance donc un appel pathétique à toute la communauté à venir en aide aux veuves pour qu'elles occupent une place respectée dans notre société et pour qu'elles aient accès à la protection juridique et sociale de sorte qu'elles puissent prendre soin de leurs enfants.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Manifestation au Kenya, le président Ruto prêt au dialogue. Le président kenyan William Ruto s'est dit prêt à dialoguer avec la jeunesse en colère contre la hausse des impôts. Pendant près d'une semaine, des milliers de jeunes se sont rassemblés dans tous les pays contre les projets de loi des finances publiques au Kenya. Ces derniers affirment que le gouvernement est revenu sur sa promesse de réduire les coûts de la vie. L'administration de William Ruto a défendu son projet de nouvelles taxes qu'elle juge nécessaires pour relancer l'économie du pays lourdement endetté. Les Kenyans ayant enregistré en mai un taux d'inflation de 5,1% sur un an. La protestation lancée sur les réseaux sociaux a commencé le mardi 18 juin dans la capitale Nairobi. Elle s'est ensuite propagée dans tous les pays. Entreprise en grande partie par des jeunes Kenyans, ils ont ensuite diffusé les manifestations sur les réseaux sociaux.
L'invité.
Lancement la semaine dernière du projet Lisanga pour une assistance globale de près de 30 000 déplacés de la crise des Kwamut installés dans les zones de santé des Kwamut et Maluku 2 ici à Kinshasa. Une initiative de 8 organisations formant un consortium de mise en œuvre avec Caritas International Belgique et Caritas Congo Asbel. Pour en parler, nous recevons dans ce journal la représentante pays en RDC des Caritas International Belgique, Madame Liliane Bitong Ambassa, entretien avec Noëlla Luzitu Kabambi.
Madame Liliane Bitong Ambassa, bonjour. L'est de la RDC, dont le nord Kivu et l'Ituri, sont frappés par une crise multiple à cause de la guerre notamment. Pourquoi votre consortium, avec l'appui de l'Union européenne, a choisi d'aider seulement ces déplacés de la crise de Kwamut dans les sites de Doumi, Mongata et Mbankana?
La crise qui a débuté dans le Maïndombe et s'est étendue à la commune rurale de Maluku, au Congo, au Kwilu, a déjà provoqué des milliers de morts, plus de 500 000 déplacés, des violations des droits humains, destruction des maisons, des écoles, des structures sanitaires, des moyens d'existence. Les populations ont été peu médiatisées et très peu assistées. J'ai pu rencontrer plein de familles qui hébergent déjà depuis 1 an, 2 ans, 10, 20, voire 30 familles. Il faut aider les populations qui souffrent, partout où elles souffrent. Et les acteurs humanitaires interviennent majoritairement à l'est de la RDC. Nous sommes actifs déjà depuis longtemps au niveau du Maïndombe, du Kwango notamment. Nous avons donc fait du plaidoyer pour que les acteurs humanitaires et de développement viennent en aide aux populations. L'Union européenne, c'est l'un des seuls bailleurs de fonds qui soit actif aussi bien à l'est de la RDC qu'à l'ouest.
Et qu'en est-il de ceux qui sont dans les provinces du Kwango et Kwilu, notamment à Kenge, Kikwit et Bandunduville?
Les populations du Kwango, du Kwilu, elles ont autant souffert que celles de Maluku ou celles de Kwamut. Notre consortium n'a malheureusement pas pu mobiliser de fonds pour ces autres zones. Et donc nous nous sommes focalisés sur les zones qui hébergent la majorité des déplacés à ce stade. Mais nous nous concertons avec les autres acteurs qui sont susceptibles d'intervenir et nous continuons à faire du plaidoyer pour ces zones. Nous prévoyons d'ailleurs sur fonds propres d'accompagner modestement la CDJP au niveau de Popocabacá, afin qu'elle puisse mettre en œuvre une initiative de cohésion sociale.
En quoi consiste l'aide que vous voulez apporter à ces déplacés de Maïndombe?
Le projet Lisanga, que nous mettons en consortium de 8 organisations, Caritas Belgique, Caritas Congo, Caritas Kinshasa, JP Archikin, Magna, Street Child, APEDC et Train Them to Fish, a pour objectif d'améliorer les conditions de vie et la cohésion sociale des populations affectées par la crise du Maïndombé. Il y a 6 volets, protection communautaire, cohésion sociale, sécurité alimentaire, santé primaire et lutte contre les violences basées sur le genre, nutrition, éducation en urgence. Le projet ciblera 30 000 personnes dans les zones de santé de Kouamout et de Maluku 2.
Quels sont les mécanismes que vous comptez mettre en place pour que ce projet aboutisse dans tous ses volets ?
Il nous a semblé primordial de mettre les communautés au centre de l'action de manière à favoriser la résilience des populations. Donc il y aura des comités de protection communautaire et il y aura également des agents communautaires qui seront en appui des populations. Les populations auront un grand rôle à jouer, les autorités également. De notre côté, au niveau du consortium, nous nous engageons à agir en toute transparence, en toute redevabilité. Il y aura d'ailleurs un mécanisme de plainte qui permettra à toute personne dans les communautés d'exprimer ses plaintes, ses suggestions, ses encouragements.
Dans l'action de vos 6 volets, vous comptez orienter une partie des acquis vers les zones inaccessibles. Comment cela va se faire ?
Effectivement, il y a plusieurs zones auxquelles nous n'avons pas accès. Par exemple, toute une partie de Kouamout. Et il n'est pas clair si les populations s'y trouvent en besoin d'assistance. Nous travaillerons donc avec les autres parties prenantes pour accroître cet accès humanitaire et orienter environ 20% des appuis vers des zones qui sont actuellement inaccessibles ou qui ont été récemment libérées par les FRDC. Cela sera au cœur des discussions avec les comités de protection communautaire. Le cas échéant, ça va aussi nécessiter que nous interagissions avec toutes les parties au conflit et les autres acteurs pertinents dans les zones d'opération. Il sera important que chacun comprenne nos principes d'action, qui sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance.
Madame Liliane Bitong Ambassa, je vous remercie.
Merci à vous.
Et c'est la fin de cette session des Vos Nouvelles de Midi sur Radio Kapi, mise en onde par Billy Landry Betou sous la supervision et coordination de Martin Sebujangwe et Élisée Chukota Chivueta. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de l'avoir suivi.